Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 27 février 2024 et c'est l'épisode 355. Encore une semaine de folie quand on suit l'actualité tech. On a du nouveau avec Sora, le générateur de vidéos hyper qualité top moumoute d'OpenAI. On a du nouveau avec Stable Diffusion, avec Google également, qui propose un modèle génial, je donne pas le nom, qui s'appuie sur les vidéos de jeux vidéo, c'est rigolo à voir. Mistral, Cocorico, qui propose le chatbot, ou plutôt devrait-on dire le chat bot, et qui signe un deal avec Microsoft. En plus, waouh, on va s'éclater. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est l'excellent Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu?
Mais ça va très bien.
Ça va, t'as réussi à suivre là le défilement ininterrompu des... Il y en avait un petit peu moins que la semaine dernière, je trouve, mais ça
ouais.
Reste quand même dense. Hein.
Oui, ouais, ça reste très très dense, hein, c'est clair. Hein, faut... Tous les jours, hein, c'est vraiment... Pff, on est des forçats, quoi.
Ouais, et je garde, moi, la bonne vieille technique du flux RSS. Je ne sais pas si tu utilises autre chose. De temps en temps, j'aime bien faire un petit point sur les outils de veille, comme ça. Un peu Flipboard, parce que je trouve qu'il y a la curation qui est assez cool. Je ne sais pas si tu as changé, toi, d'outils de veille. Ou...
Non, en fait, je vais beaucoup sur les sites eux-mêmes, en réalité. Hein,
ah ouais, très bien. Ok. Mmh. Ah, c'est vachement bien. Okay.
On fait du trafic, mais oui.
C'est beau, c'est beau. Eh ben, félicitations à toi. Il te remercie. Il nous écoute là, il te remercie. Merci beaucoup aussi à Florian Gouillon, à Stéphane S29, à Super Saiyan 427. Quelque chose me dit qu'il aime bien Dragon Ball et Dragon Ball Z en particulier. C'est des personnes qui ont accepté de nous soutenir. Alors, si vous aussi, vous rêvez d'être cité comme étant les visiteurs du tapis rouge hebdomadaire qu'on déroule pour chaque épisode, bah, c'est simple. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé et devenez un auditeur VIP, un auditeur engagé qui contribue à faire vivre l'émission avec quelques euros par mois. Vous profitez en échange d'un flux privé qui vous permet d'ajouter Tech Café dans votre app de podcast pour écouter les épisodes sans la pub. Ça, je me permets d'insister parce que il y a des personnes qui s'imaginent que ça passe avec une application tiers, etc. Pop, 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 vous gardez votre application habituelle et puis vous rajoutez votre petit flux privé comme ça et vous avez vos épisodes à vous. Et puis, vous soutenez aussi et surtout un podcast qui vous donne, on l'espère, une info utile, sourcée de qualité, assez fun quand même, hein, et que vous pouvez écouter pendant que vous faites vos tâches ménagères ou pendant que vous faites d'autres activités comme le sport. Je sais qu'il y en a qui font du sport. De l'administratif, du rangement, c'est sur patreon.com/techcafé. Et puis un petit mot pour Arnaud T, qui a laissé un avis sur Apple Podcast, et il dit « C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de tech. J'apprécie particulièrement la façon dont Tech Café aborde l'actualité tech avec une touche personnelle et une profonde expertise. » Je vais le redire, c'est important quand même. Une touche personnelle et une profonde expertise. Waouh. C'est devenu un rituel hebdomadaire pour moi et pour l'entériner à jamais dans les commentaires. Un certain passage en 2D dans les chers disparus de 2023 m'a fait mourir de rire. Respect et robustesse, merci beaucoup à toi. Et puis, on vous invite aussi à venir échanger entre vous et avec nous sur le serveur Discord, techcafé.fr/discord, et à commenter les articles qui accompagnent la parution des épisodes sur techcafé.fr. On a enfin, pour terminer ce tour de piste des interactions avec nos auditeurs et notre communauté, un petit retour par message privé sur Patreon que nous a envoyé GT. On ne savait pas si on pouvait donner ton prénom, non. Alors, on s'est dit qu'on allait donner tes initiales ou TG. Bon, on va dire GT plutôt. Et donc, on ne sait pas si tu veux bien être cité. Mais en tout cas, on a bien vu ton petit message. Je l'ai d'ailleurs transféré de manière privilégiée à Guillaume Poggiaspala qui en avait évidemment pris connaissance.
Ah, oui, oui,
tu,
assez, oui,
tu voulais
pardon,
pas réagir, non. Tu peux ne pas réagir.
Si, si, au contraire, si bien sûr que si, non, au contraire. Non, mais justement, c'est ça le problème. C'est que, en fait, il nous envoie un retour qui est, qui est une réflexion, effectivement, sur, à propos de Sora, à propos de, ouais. De ce qu'on a dit de Sora la dernière fois. Et donc, il a fait sa propre réflexion à partir de là. Et c'est vrai que, finalement, on va en revenir un petit peu dessus. Et bon, c'est presque un peu métaphysique. Alors, ouais. Désolé, ça va partir en couille avant même le début de l'épisode. Déjà, ça va être compliqué, quoi. Donc, il lui semble que finalement, les modèles de deep learning apprennent un petit peu comme nous, c'est-à-dire en assimilant des notions de 3D, de physique intuitive, qui sont suffisantes pour nous dans la vie courante, hein, et en fait, il rapproche ça du système 1 de Kahneman, c'est-à-dire la pensée rapide, intuitive et émotionnelle, hein, dans notre cas, et il fait référence au bouquin Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée de Daniel Kahneman. Et effectivement, c'est l'objectif avoué des grandes boîtes que de concevoir des modèles qui se font une représentation du monde tout seul. Qui se font une idée de la 3D juste en regardant des vidéos, et une pour la physique juste en regardant des trucs tomber ou des voitures rouler. Une idée approximative, mais qui est néanmoins utile dans certains contextes. Et donc apparemment, c'est chose faite avec Sora, hein. En tout cas pour les chercheurs d'OpenAI. Pas pour Yann LeCun, qui dit qu'il n'y a pas de preuve que Sora est vraiment une représentation du monde, et surtout il dit que l'approche générative de Sora est vouée à l'échec parce que trop dépensière. Alors, j'ai aucune idée de comment prouver mathématiquement que Sora possède ou non un modèle du monde ou pas, ça je ne sais pas. Mais le fait qu'il fonctionne aussi bien, on dit qu'il a assimilé des concepts de comment ça marche, la physique et tout ça.
Ça, tu le disais effectivement au moins dans l'épisode utiles, de la semaine dernière, ouais, voilà, tout à fait.
Qui sont au moins utiles pour son objectif à lui. Et son objectif à lui, c'est de générer des vidéos. C'est déjà pas mal, hein, ça pose déjà suffisamment de questions sociétales. Alors, est-ce que Sora est le modèle qui va permettre de créer des robots ou des super IA? C'est pas évident du tout. Chez OpenAI, on dit que c'est une étape de plus sur le chemin de l'AGI, de l'intelligence artificielle générale, mais bon, pour eux, de toute façon, tout est une étape vers l'AGI de toute façon, ils sont à fond sur l'AGI, voilà, bon, ils sont focus. Pour Lequin, générer des pixels, c'est générer surtout énormément de détails dont on se fout hein, si on veut piloter un robot. Pour lui, il faut aller à l'essentiel, se concentrer sur des tâches de classification qui sont beaucoup moins coûteuses en calcul que de génération. Alors, notre auditeur se demande, du coup, si coupler une IA qui a une représentation du monde, quelle que soit la voie choisie, hein, voilà, disons qu'il se fait une idée du monde voilà, en regardant des vidéos, en tout cas en ayant ce genre d'expérience-là, quand il se fait cette idée du monde, déjà ça lui fait une sorte de système 1, et lui, enfin donc notre auditeur, s'est dit, bah, si on l'associe à un modèle de langage, ça lui permettrait peut-être de lui donner un système 2, c'est-à-dire une pensée lente, symbolique et analytique. Mmh. Et du coup, on aura le combo gagnant, système 1 plus système 2, et hop, super intelligence, youpi. Alors, bon, je peux me planter, hein, bien sûr, mais pour moi, les modèles de langage actuels ne sont pas assimilables à des systèmes 2. Ce sont aussi des systèmes 1. Ce ne sont que des systèmes 1, mais uniquement textuels. La raison en est simple, hein, c'est que les modèles de langage sont mauvais en logique. En fait, même s'ils sont utilisés comme moteur de décision, parfois, hein, absolument, et que parfois, bah, ça réussit, en général, ils ne sont pas très bons en raisonnement. Ils se plantent de manière parfois débile, ils sont sensibles aux formulations, ils sont sensibles à l'ordre des réponses, ils sont assez fragiles en réalité, hein. Et c'est normal, parce qu'un modèle de langage, il donne le mot le plus probable qui suit. Donc finalement, chaque phrase est un chemin, quelque part, dans une distribution de probabilité. Ils ont appris une distribution de probabilité, hein, et finalement, en vrai, il sélectionne les mots bah, selon son intuition, parce qu'il prend le mot le plus probable, qui lui semble le plus probable. Donc en fait, quelque part, il utilise aussi son intuition, son feeling, ce feeling qu'il a développé en lisant des myriades de textes. Les modèles de langage actuels sont des intuitifs. Ils répondent du tac au tac en empilant les mots les plus probables. Et ils arrivent parfois à un raisonnement juste. Et parfois, ils arrivent à un raisonnement qui n'est pas juste, et pour eux, ça ne fait aucune différence. Un raisonnement tout à fait juste et un autre parfaitement faux, pour un chatbot, ce sont simplement deux chemins de probabilité comparables. Il n'y a aucune différence pour eux, aucun moyen d'appliquer de la logique dure pour dire que vraiment, non, il y en a un qui est faux, il y en a un qui est vrai. Ce sont deux chemins, c'est tout. Et c'est même un des principaux soucis qu'on a aujourd'hui. Il y a pas mal de tentatives d'y remédier, hein, alors, quitte à greffer d'autres logiciels classiques au chatbot, on a évoqué voilà, quelques-uns. Mais bon, nous, humains, on a développé le langage comme un système symbolique, comme une abstraction de notre univers physique, et on s'en sert comme appui pour la pensée, pour la logique, en s'affranchissant des limites physiques. Mais c'est pas comme ça que les chatbots considèrent le langage. Pour un chatbot, le langage, c'est pas une abstraction. C'est pas un outil. Pour un chatbot, le langage, c'est leur univers. Ils ne connaissent rien d'autre, ils interagissent avec rien d'autre. Un chatbot, il produit du langage de manière purement intuitive, dans son univers de mots. Et c'est exactement comme un enfant qui manipule des cubes dans son univers physique, avec des notions empiriques de comment ça marche. Un enfant a des notions empiriques de comment ça marche d'empiler des cubes. Et ben c'est exactement pareil pour un chatbot, sauf que son univers n'est constitué que de mots. Donc pour le moment, on n'a pas de système 2 à greffer à un robot, qui aura déjà un système 1. On a juste deux systèmes 1, dans des univers différents, et qui peuvent faire le boulot dans certains cas, mais c'est tout. Mais là, on cherche à aller plus loin, effectivement, et bon... dans quelques années ou quelques mois, on va savoir, on aura résolu le problème.
Ce qui m'intéresse toujours en trame de fond, c'est de savoir si les intelligences artificielles ont des représentations du monde. Donc ça, on a ta vision et ton interprétation qui me semble assez juste. Mais de savoir aussi si demain, ils pourront faire illusion. Tu vois, c'est presque un sujet un peu annexe. Ben, pas suffisamment de manière convaincante pour être confondu avec une AGI. Tu vois, ils le font, mais non, de manière vrai, inconstante et pas sur tous les domaines.
Quand tu lui demandes de faire un raisonnement, il te fait un raisonnement.
Oui, effectivement.
Mais c'est un raisonnement qui n'est pas robuste.
Oui. Aujourd'hui, le raisonnement qu'ils font est basé sur une illusion. Mais est-ce que demain, l'illusion pourrait être beaucoup plus convaincante et elle ne serait pas pour autant une vraie représentation du monde tel qu'il l'aurait? Tu vois, ça pourrait continuer à être une illusion auprès des êtres humains.
Ce qui est très compliqué, si tu veux, c'est que toutes les IA qu'on a là, qui sont super compliquées, elles ont des représentations internes, qui sont des structures, qui représentent des concepts d'assez haut niveau, finalement, hein, pour la tâche qu'on leur a donnée. Donc, un chatbot, c'est basé sur un modèle de langage qui a, à mon avis, d'authentiques capacités linguistiques. Il sait manipuler les mots, il sait différencier, très probablement, hein. Enfin, je veux dire, même si j'ai pas de papier à citer, après, voilà, et en tout cas, c'est un truc, il sait très probablement différencier un verbe d'un nom, d'un adjectif, qui sait catégoriser des choses, qui sait manipuler des catégories, qui sait que tel concept va avec tel concept, etc., etc. Il sait faire des métaphores, il connaît des lois de la physique dans le sens où, bah, il sait que, voilà, on associe certains mots à certains autres et que, c'est dans cet ordre-là, etc. Donc, il a de vraies capacités linguistiques. Après, est-ce que ça veut dire qu'il est capable de faire des raisonnements logiques? Ben, pas de manière robuste. C'est ça le problème.
Bon, écoute, en tout cas, merci à GT de nous avoir allongé notre conducteur dès le début avec des sujets aussi intenses de quelques minutes.
C'est intense.
Je le dis vraiment sans aucune forme d'ironie parce qu'évidemment, c'est passionnant et on est très friands de vos retours, donc surtout continuez. Sans autre forme de procès, pour le coup, on plonge, on fait un plongement, comme ça, on fait un plongement, mais dans les news tech, évidemment, sous l'angle de l'intelligence artificielle, parce que ça y est, ça va peut-être pas s'arrêter là, hein, mais on a déjà plus d'infos sur Sora, Guillaume.
Alors, enfin, oui, alors, désolé, je sais pas ce que je sois. On va faire un petit
peut-être
retour
que
sur
un rhume,
Sora.
Comme on en a assez souvent.
Ouais, bah d'ailleurs. on va faire un retour sur Sora cette semaine parce qu'il y a quelques indices supplémentaires. Il y a une tendance nette qui se dessine. D'ailleurs, il y a pas mal de réactions assez diverses aussi à son propos. Alors, Sora, on le rappelle au cas où vous seriez à peine de retour de votre retraite au Tibet, c'est un modèle de deep learning d'OpenAI qui est capable de générer des vidéos, mais carrément des vidéos en 1080p d'une longueur allant jusqu'à la minute et qui sont d'une qualité qui est vraiment sans aucune mesure avec tout ce qui se fait. Par la concurrence, quoi. Comme le dit trop volontiers YouTube, ça a choqué l'industrie entière. Sauf que pour une fois, bah, c'est pas juste un titre putaclic, hein, c'est une réalité, et ça a pas choqué que l'industrie, d'ailleurs. Alors, on n'en sait pas beaucoup sur Sora, officiellement, mais les chercheurs ont révélé quand même qu'il s'agisse d'un modèle de diffusion dans les grandes lignes qui était un peu analogue, finalement, à ce qui se fait déjà pour les images. Sauf que ça génère d'un bloc toute une vidéo. Donc, un bloc d'images successives, et que ça utilise une architecture de diffusion transformer, donc des transformers utilisés pour faire de la diffusion, comme Stable Diffusion, hein, mais c'est quand même une architecture différente, justement, de celle de Stable Diffusion, c'est-à-dire que techniquement, on n'utilise pas exactement les mêmes modèles, donc pas exactement les mêmes algorithmes. Et bon, alors évidemment, le truc, c'est que qu'est-ce que ça change? La semaine dernière, on se demande un petit peu, bon, ok, mais ça change quoi? Et en réalité, ce détail technique a son importance, parce que la semaine dernière, l'avantage de passer donc des U-Net au Transformer n'était pas totalement clair, mais en creusant, on peut trouver plus d'informations, en particulier si on s'intéresse au compte X de Sai Ningxie de NYU, alors je le prononce à la chinoise et j'essaye de m'aventurer, ça s'écrit Xie, mais bon voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à Sai Ning? Eh bien parce qu'avec son pote à William Pebbles, ils ont écrit en mars dernier un article qui porte exactement sur les Diffusion Transformers, qu'ils appellent d'ailleurs les DIT. Donc Diffusion Transformer, hein, tout simplement. Et bon, ils ont étudié leurs avantages. Et à l'époque, eux, ils ont créé un générateur d'images. Pas de vidéo, mais ils ont créé un générateur d'images, donc en fait, en 2D au lieu d'être en 3D, finalement. Hein. Mais parce que, voilà, pour faire des vidéos, on rajoute une dimension qui est le temps, tout simplement. Donc en fait, eux, ils se sont limités à la 2D classique à l'époque. Or, William Pebbles, il est chez OpenAI, et devinez quoi, il fait partie de l'équipe qui a fait Sora. Donc il est très raisonnable de penser que Sora repose au moins en partie sur les fondations posées dans cet article de mars dernier, et du coup, Sai Ningxie, c'est le co-auteur, et donc il a d'autant plus de crédibilité quand il en parle. Donc on peut supposer que Sora repose sur une technologie qui a donc un an pile, et qu'il utilise une architecture qui est déjà connue et qui a été conçue avec, pour principaux objectifs, d'être assez simple finalement, et de pouvoir passer facilement à grande échelle. D'ailleurs, Sai Ning, il suppose aussi que Sora utilise une autre technique, qui est une technique de Google, pour contrôler la taille de la vidéo générée, qui s'appellerait Patch and Pack, mais bon, c'est pas le truc principal. Le principal enseignement de l'article, donc, qui à l'époque portait sur les images, c'est que les Diffusion Transformers sont plus rapides, et qu'ils fonctionnent toujours de mieux en mieux avec plus de puissance. C'est ça qu'on appelle pas passer à l'échelle, quoi. Et là où c'est bien assez incroyable, c'est que Sai Ning fait un rapide calcul de la taille potentielle de Sora en fonction des illustrations du post d'OpenAI. Et il arrive à la conclusion que si le modèle d'origine tout pété qui est montré dans le post avec la vidéo dégueulasse, c'est celui qu'ils utilisaient à l'époque, le modèle final pourrait n'avoir que 3 milliards de paramètres, puisqu'il n'y en aurait en fait que 32 fois plus. Et donc c'est assez délirant, parce que c'est grosso modo la taille de Stable Diffusion XL à 3 milliards de paramètres, hein, donc c'est vraiment pas gros. Alors même en admettant qu'il part d'un modèle plus gros, même en admettant que ce soit 4 fois plus, Ben, si c'est 4 fois plus, bon, ben voilà, ça fait 12 milliards. C'est pas si énorme en réalité.
On se serait attendu à beaucoup plus gros, beaucoup plus massif compte tenu de la,
exactement,
restitution et de la qualité. Ouais.
Donc Sora pourrait être nettement plus petit qu'un grand modèle de langage. Donc tout ça ouvre des perspectives hallucinantes, hein, où une génération vidéo de la qualité de Sora pourrait arriver pour les particuliers plus vite que prévu.
Mais alors d'où vient ce secret, Guillaume ?
Alors attention, par contre, attention, il faut savoir que même si le modèle n'est pas super énorme, ça peut quand même demander beaucoup de temps de calcul. Il y a un article de Bloomberg qui laisse penser que c'est même assez long, de l'ordre de plusieurs minutes à une heure pour une vidéo d'une minute. C'est probablement, enfin c'est assez logiquement d'autant plus long que tu fais
c'est
une vidéo longue. Hein,
ça... Bah oui.
Forcément, et une vidéo de avec une grosse résolution, je suppose, ah, bah, exactement comme pour les modèles qui font des images, hein, au plus vous faites une image grosse, au plus c'est long. Donc c'est comme un modèle de diffusion, hein, il faut débruiter la vidéo à partir d'un bruit, bon là le bruit est en 3D, hein, c'est une sorte de volume de bruit comme ça, une sorte de nuage, et vous essayez de débruiter le nuage pour bah, en fait entre-apercevoir petit à petit, donc faire apparaître petit à petit la vidéo d'un bloc comme ça. Donc c'est, le débruitage se fait en 3D. Et donc un débutant en 3D, bah, ça prend beaucoup plus de calcul qu'un débutage en 2D quand même. Hein. Donc finalement, il faut plusieurs étapes du coup pour débruiter petit à petit cette vidéo. Donc du coup, combien il faut d'étapes pour les vidéos ? Bon, bah, je sais pas. Pour les images, oui, on était parti à 20-30. Aujourd'hui, on arrive à faire des images plutôt belles à 4. Mais bon, là, combien il en faut pour les vidéos, je sais pas. Ça se trouve, il en faut 50. Et puis, comme on fait du débruitage en 3D, ça peut quand même représenter beaucoup de calculs. Bon, si on en revient à Signing, bah, il travaille toujours là-dessus. Et il n'est pas parti à la retraite hein, depuis. Et pour lui et son équipe donc à NYU, donc à New York University, ils ont déjà mis au point une nouvelle architecture optimisée de Diffusion Transformers qui va converger plus vite et plus précisément. Donc à la clé, on aura probablement une génération plus rapide et encore meilleure. Et par ailleurs, bah, les Diffusion Transformers commencent à se généraliser. Il y a Ali Atamizadeh qui en décembre dernier a publié avec son équipe chez Nvidia un truc très approchant qu'il a appelé DFIT pour bah, Diffusion Vision Transformer. D'après l'auteur, la méthode DFIT serait même meilleure que le DIT. Le DIT, c'est la méthode originale de Pebbles et Cie. Donc, pour couronner le tout, il y a Snap, donc le Snap de Snapchat, hein, qui vient de publier un modèle de génération vidéo qui se base lui aussi sur des Transformers. Alors attention, pas d'affolement, c'est très 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 loin de Sora, hein, c'est même très saccadé, ça reste des formats courts. C'est pas dans la même catégorie, mais la cohérence temporelle n'est pas mauvaise. Bon, tout ça pour dire que, d'une part, l'architecture de Sora, elle n'est pas forcément si mystérieuse que ça, et qu'elle est sans doute même déjà dépassée en d'autres termes, enfin en termes théoriques on veut dire, par d'autres modèles, et que ce modèle-là n'est peut-être pas si énorme, donc il est peut-être plus accessible que ce qu'on peut imaginer. Par ailleurs, il y a déjà pas mal de monde qui maîtrise ces techniques, hein, et leur efficacité et leur relative simplicité font qu'il est probable qu'on assiste dans les mois à venir à l'éclosion de plein de petits Sora, open source ou pas open source. Hein. Et bon, OpenAI pour avoir de la concurrence, peut-être plus vite que ce qu'on pourrait croire. Après, il reste quand même l'obstacle principal, mais qui c'est évident dès qu'on parle de machine learning, c'est avoir suffisamment de données de très bonne qualité pour créer de très bons modèles. C'est au moins aussi important que d'avoir une bonne architecture. Donc sur quoi a été entraîné Sora ? Ça par contre, bizarrement, OpenAI n'a dit absolument rien, et on se doute que c'est pas des vidéos YouTube random. Hein.
Le mot de open dans OpenAI est plus forcément représentatif, mais ça on l'avait déjà dit. On continue à parler de Sora, Guillaume.
Oui, des réactions à Sora, alors elles ont été vraiment très nombreuses sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as vu toi aussi passer quand même vraiment pas mal de trucs.
Pas autant que toi, je pense, mais oui.
Et alors, il y en a eu beaucoup. Alors, il y a eu des nouvelles vidéos d'ailleurs qui sont sorties, qui sont assez extraordinaires. Enfin, certaines sont incroyables. Alors, il y en a qui ne sont pas toutes formidablement incroyables, mais il y en a quand même des vraiment belles. Et il y a eu des réactions qui ne sont pas toujours positives, surtout, hein, voire vraiment pas. Et ça s'est vu partout. De X à TikTok, il y a eu des réactions horrifiées, indignées, appelant à rendre les IA illégales. Un post qui a quand même récolté 250 000 likes, hein, des gens ayant accès en avant-première au générateur, d'ailleurs, donc qui postaient des nouveaux trucs, qui se font menacer de mort. Il y a un YouTuber qui s'appelle Moist Critical qui tweet qu'il n'arrive pas à imaginer un côté positif à Sora. Et son tweet a atteint les 8 millions de vues et les 153 000 likes. Donc on en lit des échos sur divers sites, d'ailleurs, et même sur Fortune. La plupart du temps, on se préoccupe des pertes d'emploi, bien entendu, de la peur de la crise de l'Infox, hein, des problèmes éthiques, des déplacements de richesse, et bien entendu, des travailleurs vers les grosses boîtes d'IA. Et il y a aussi parfois carrément de la peur brute, un petit peu plus profonde, hein, qui peuvent alléger à des trucs genre Terminator, même si c'est quand même moins courant. Une illustration notable de ce malaise, c'est quand même Tyler Perry, qui est acteur et producteur de télé, et de cinéma, et même de théâtre, en fait. On l'a vu récemment dans Don't Look Up, en tant qu'acteur. Il fait aussi des voix, des doublages, etc. Et bon, bref, ce gars, qui est quand même un gros pro hein, du secteur, avait un projet d'étendre ses studios à Atlanta. Donc c'était un gros projet de 800 millions de dollars. Et il vient de les mettre en pause, parce que, bah, d'après ce qu'il dit, bah, il a vu Sora, et plus largement, bah, il a vu évoluer tous les outils de création de génération de contenu à vitesse grand V. Et bah, donc, bah, il se demande si avoir de plus gros studios, c'est vraiment pertinent pour le futur.
Oui.
Tout simplement dans un futur où n'importe qui peut générer une scène de sitcom dans une cuisine aussi facilement qu'une poursuite en Ferrari au Caire, quoi, tu vois. Donc, quelle place restera aux vrais studios, aux vrais techniciens et aux vrais acteurs. Donc, d'ailleurs, Tyler a aussi profité de l'IA pour son dernier film, hein, ou ses deux derniers films, hein, qui lui ont invité, voilà, l'IA, enfin, en gros, ils ont utilisé probablement un filtre IA pour lui le maquiller, quoi, pour probablement le vieillir. Et bon, c'est déjà un premier pas, mais ça va vite. Et d'après lui, tout le monde court derrière l'IA pour essayer de suivre sans trop y parvenir. Et ça part pas bien. Enfin, il dit que ça part pas bien, parce que des outils comme Sora, ça va éliminer un nombre énorme de boulots très variés. Enfin, c'est ce qu'il dit. Hein. Des comptables aux architectes, en passant par des sculpteurs, des électriciens, des ingénieurs du son, sans même parler des acteurs eux-mêmes. Parce qu'il n'y a même plus besoin de pilotes de drone ou de maçons qui construisent les décors. Et bon, Tyler, évidemment, il est partagé, parce que il est producteur. Donc, évidemment, il voit arriver un futur où la production de vidéos sera beaucoup moins chère, et ça, c'est cool. Donc, il est bien placé aussi pour dire que les autres producteurs, hein, de chez HBO ou Disney ou ailleurs, ils vont pas hésiter trop longtemps s'ils peuvent réduire leurs coûts en préservant la qualité. Hein. D'ailleurs, Disney vient d'annoncer des partenariats avec plusieurs boîtes d'IA, dont Eleven Labs, spécialiste des voix synthétiques, qui vient de se lancer aussi dans les bruitages. Donc, on trouve aussi Audio Shake, d'ailleurs, pour la manipulation audio, et Promethean AI, qui est une sorte d'assistant à la création de scènes 3D, donc c'est assez large. Mais bon, en tant qu'acteur, et en tant que pro qui connaît et qui côtoie en permanence des centaines de personnes et des dizaines de métiers, hein, le ressenti de Tyler, il est très très différent. Et honnêtement, il n'a pas vraiment de réponse. Il n'a pas de solution simple. Hein. Au bout du compte, si justement on se limite à la vue purement comptable, où on court tout simplement à la catastrophe, enfin pour l'industrie du cinéma, hein, en particulier en l'occurrence, quoi. Il faut selon lui associer une forme de compassion pour l'humanité, je cite, hein, penser aux humains, leur donner une voix, non seulement sous forme de syndicat de l'industrie, mais aussi au Congrès. Bon, donc légiférer, quoi. Alors, je l'avais raté à l'époque, hein, mais sur Medium, il y a un gars qui, en mars 2023, donc il y a un an, avait déjà fait le rapprochement avec Dune, dans l'univers duquel des machines pensantes sont interdites. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les films, tout ça, mais il n'y a pas d'IA, il n'y a pas d'ordinateur ultra sophistiqué, il n'y a pas de robot hein, dans Dune. Pourquoi ? Parce qu'à une époque, il y a eu un djihad butlérien, comme il l'appelle. Le djihad butlérien, c'est alors les machines. Bon, il y a eu des gros problèmes dans l'univers de Dune avec les machines, et en gros, elles ont été interdites, bannies par la religion qui est la religion dominante de.
Mais c'est hyper intéressant ce que tu me dis, parce que j'ai pas tout la culture du lore de Dune. Je fais une toute petite parenthèse, mais bon, je suis un très très gros fan du 1 là qui est sorti, et puis évidemment il y a le 2 qui arrive dans les versions plus récentes hein, au ciné. Et alors j'ai même vu Dune 1 pour la petite anecdote avec mes deux fils qui étaient bien à fond, alors que le petit a 8 ans, il a même pas 8 ans, il était à donf, et je suis marqué effectivement de l'ambiance, de l'univers, et c'est très marquant ce que tu dis, parce que je ne savais pas qu'il y avait ce background dans l'univers de Dune qui indiquait qu'il y avait eu un souci avec des robots. C'est passionnant ça, du coup, ça fait une analogie géniale.
Il y a une trilogie, je crois, de livres qui se passe avant. Hein, qui décrit la guerre des machines, tout simplement.
D'accord.
Et donc il y a le djihad butlérien qui donc le djihad butlérien, ça a été l'éradication des machines, et donc dans la religion donc de la Bible catholique orange, les machines pensantes sont interdites. Et d'ailleurs, il y a une citation de la Bible catholique orange, je crois que c'est la Bible catholique orange. En tout cas, c'est dans Dune, c'est de Frank Herbert, qui dit « Autrefois, les hommes confièrent leurs pensées à des machines dans l'espoir qu'elles les libèrent, mais cela n'a permis qu'à d'autres hommes avec des machines de les réduire en esclavage. »
C'est génial.
Peut-être à méditer.
On va prendre le temps de réfléchir là-dessus et de se faire peur. En tout cas, je sens qu'il y a un segment de science-fiction qu'il faut que je continue à creuser, qui va probablement s'avérer passionnant. Évidemment, hein, toute nouvelle avancée de l'intelligence artificielle et de ces outils-là suscite évidemment son volume de peur. Il faut aussi prendre tout ça avec recul, sérieux, et donc bien comprendre ce qui se passe. C'est aussi la vocation de Tech Café, donc ne bougez pas, vous êtes dans le bon podcast. Et pour continuer à vous en convaincre, on va aussi vous tenir au courant avec de Stable Diffusion, forcément. Hein. Petit big up aux épisodes où on vous explique, Guillaume Poggiaspala vous explique avec un dossier comment générer des images avec Stable Diffusion sur votre ordinateur en local sans dépendre des ressources sur le cloud. Il y a une actualisation qui est sortie il y a quelques jours avec un patch, hein, un épisode hors série qui actualisait, mais qui était presque en partie dépassé par ce qui arrive. Ça va très très vite, Guillaume.
Dépassé par Stable Cascade et dépassé par Stable Diffusion 3, bien entendu, évidemment. Encore un truc, hein, donc qui rend obsolète l'épisode de supplément de ce week-end, donc
poubelle.
C'est quand même terrible. Non, pour le coup,
je rigole.
Stable Diffusion 3, il vient d'être annoncé, et bon, voilà, on a plein d'exemples de ses fabuleuses capacités, mais il n'est pas encore disponible. En tout cas, au moment où je parle, le 26, il n'est pas, le 27, pardon, il n'est pas disponible.
Il suffit que tu dises ça pour que la semaine prochaine...
C'est ça, le lendemain, c'est fini. Bon. Tant pis. En fait, Stable Diffusion 3 n'en serait qu'au stade de Early Preview, mais il est déjà très prometteur, et devinez quoi ? Eh bien, il passe au Diffusion Transformer, lui aussi, la même technologie que Sora. Tout le monde s'y met. Et bon, si on se base sur la puissance de ce qu'on a vu chez OpenAI, bah, ça augure d'améliorations assez spectaculaires aussi pour la génération d'images. Alors justement, qu'est-ce qui différencie le 3, hein, Stable Diffusion 3 du reste ? Incontestablement, sa capacité à suivre les prompts, à suivre scrupuleusement les instructions qu'on lui donne. Comme Stable Cascade, il est déjà très doué en ce qui concerne les textes, donc les panneaux, les pancartes, les logos, bon, tout ça, il sait faire très bien. Alors, oui, je sais, c'est confus, parce que Stable Cascade, c'est aussi un modèle de Stability AI, mais ce n'est pas vraiment... Bon, déjà, c'est pas le même que Stable Diffusion 3. Et on ne sait pas vraiment, parce qu'il fait aussi suite à Stable Diffusion XL, mais on ne sait pas où il va se passer. Enfin voilà, donc il y a une espèce de Stable Diffusion Cinematic Universe. Bon, c'est bordel. Mais bon, donc ils ont bien sorti voilà, deux générateurs différents d'une semaine sur l'autre. Et c'est pas moi qui radote, hein, c'est juste, je vous parle vraiment d'un autre truc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ils savent pas se décider, je sais pas apparemment. Bon, enfin bon.
Ils ont été inspirés par Google pour les nommages de leur...
je pense que finalement, la saucisse de la semaine dernière a moins de chance de l'emporter quand même. Les démos de Stable Diffusion 3 montrent à peu près les mêmes capacités, mais avec une technologie plus à la mode et seront disponibles en plusieurs tailles, ce qui va le rendre accessible au plus grand nombre, parce qu'il semble que, sous le nom de Stable Diffusion 3, en fait, il y a tout un catalogue de modèles en toutes les tailles, comme les jupes. 800 millions de paramètres à 8 milliards, donc ça radisse large. Hein. Alors 800 millions, c'est vraiment petit, parce que c'est deux fois moins que le premier Stable Diffusion. Ça le met à la portée de pratiquement tous les appareils, y compris les téléphones mobiles. Un modèle comme ça, ça prend 1,6 gigaoctets de mémoire, donc c'est pas grand-chose hein, pour les standards modernes. Mmh. Alors à l'opposé du spectre, on a les 8 milliards de paramètres, ben, du coup, qui donnent 16 gigaoctets hein, de poids de modèle, hein, si on imagine que c'est du 16 bits, comme c'est très souvent le cas. C'est pas totalement inaccessible, mais évidemment que c'est quand même beaucoup plus lourd, et c'est plus lourd nettement que Stable Diffusion XL. D'ailleurs, moi par exemple, j'ai pas de quoi le faire retourner, voilà, je suis pas amer, je suis très amer. Mais donc il y aura vraisemblablement pour toutes les bourses, hein, manifestement, ce qui est plutôt cool finalement. Après, il faudra voir à quel point la version miniature conserve l'avantage de leur grand frère, hein, parce que j'avais pu constater que la version light de Stable Cascade n'était pas vraiment au niveau. Stable Diffusion 3 a l'air de savoir faire de belles images déjà. Il y a une vidéo postée sur X qui tease aussi la possibilité de apparemment faire de l'inpainting, bon ce serait le minimum, hein, ou alors c'est par segmentation, c'est pas très clair. Peut-être de la vidéo, enfin globalement on part d'un chat dans un fast-food, et en modifiant élément par élément, on aboutit à un raton laveur dans un bar à sushi qui bouge. Alors qui bouge pas beaucoup, mais quand même qui bouge un peu. Bon, Stability a déjà fait un petit modèle de vidéo, donc peut-être que ce sera la même chose. Hein. Le passage à la même technologie que Sora peut faire espérer un modèle plus utile. À voir.
Ok, mais à bon, suivre.
Si je devais pinailler, et je vais pinailler, parce que c'est mon métier après tout, de pinailler, je dirais que même sur les images de démo, on voit que le modèle reste quand même perfectible. Ah. Donc certes, cette image avec un chat, un chien et des formes géométriques respecte parfaitement la composition qui est demandée, ça c'est très fort. C'est aussi bien, voire mieux que DALL-E 3. Mais c'est moi où ce chat, il a une toute petite tête. Il est bizarre ce chat quand même. Et ce robot qui tient une pancarte comme ça, il y a tout un texte dessus, c'est cohérent, c'est super, mais les mains du robot sont quand même nazes. Hein. Et c'est encore pire avec les scènes où on a les clowns flippos dans un diner. Alors oui, il y a bien marqué Stable Diffusion en néon derrière, mais enfin, si on regarde les détails, on note qu'il y a quand même encore toutes les anomalies classiques des versions précédentes. Il y a des mains un peu délires, des membres fusionnés, des détails bizarres. Bon, je pense que Emma de Mostaquet, qui a posté vraiment sur X un petit peu en série comme ça, aurait peut-être dû faire une petite sélection avant de poster frénétiquement, mais bon. De fait, SD3 semble pas encore parfait, mais bon, c'est une early preview, et le fait qu'il réussisse à suivre les prompts très 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 largement mieux que son aîné, c'est déjà un énorme plus. Et donc on est pressé de tester ça en vrai, avec les moyens qu'on a, bien sûr.
Évidemment, et on est hypé pour faire une actualisation de ton dossier, Guillaume, dans quelques semaines, hein, dans très très longtemps, dans quelques semaines. Il faut absolument que tu nous parles de cette nouvelle présentation de la part de Google, avec un nom qui fait rêver, hein, génie, rien de moins que ça, mais oui, un nouveau nom côté Google. Il faut suivre. Bon, ça commence par un G déjà, hein, on a compris leur logique. Et alors là, Guillaume, on se base sur de la captation de vidéos, de jeux vidéo, quelque part. De quoi s'agit-il ?
C'est vrai vous avez vu, on parle beaucoup de modèles différents, des modèles qui sont susceptibles de mettre en danger beaucoup de métiers différents. Ça ne s'arrête pas. D'ailleurs, aujourd'hui même, d'ailleurs, j'ai vu passer un truc qui s'appelle Chat Musician. Donc, c'est un Llama 2 musicien. Tout simplement, c'est un Lama 2 qu'on a entraîné à composer de la musique. Alors, c'est pas un générateur de musique homodiogène directement, il écrit des partitions, lui. Donc, il a le vocabulaire musical et tout, puis il écrit la partition directement, il discute de théorie musicale, tout ça. Un Lama 2, un Lama musicien, quoi. Bon. Et alors, j'ai pas vu passer que ça, effectivement, puisque il y a aussi ce génie de DeepMind, qui est d'ailleurs un modèle assez compact, hein, qui peut rentrer dans une lampe, hein, finalement, puisqu'il pèse que 11 milliards de paramètres, mais il est capable de rendre une image interactive. C'est un petit peu ça l'idée. Alors, il a été entraîné sur des millions de vidéos. De manière autonome, on lui a juste filé des vidéos à regarder, et en particulier sur des vidéos de jeux de plateforme, des vidéos qui ont été largement réduites en taille quand même pour économiser le temps de calcul. L'idée, c'est qu'à force de voir comment fonctionnent les jeux de plateforme en 2D, bah, quand tu lui présentes une image, bah, en fait, il imagine de quel jeu ça pourrait sortir, tu vois, de quel jeu ça pourrait être une copie d'écran. Comme les vidéos d'entraînement sont basse définition, bon, les résultats qu'il donne, pour l'instant, c'est basse définition aussi. Mais l'important, c'est que le modèle... Il infère des actions, il devine des actions quand il voit la vidéo de jeu. Il imagine ce qui va se passer. Quand le perso saute, bah, il imagine que bah, il va continuer, et puis il va atterrir là, ou alors il va tomber. Quand le personnage fait rien, il imagine qu'il avance, par exemple, s'il a de l'espace devant. Et c'est parce qu'il infère des actions liées à un contexte vidéo, hein, qu'il peut générer des trucs interactifs. Et ça peut partir de n'importe quelle image. Une photo, un dessin, un truc en pixel art. Pour l'instant, on voit des démos d'images qui deviennent effectivement brièvement hein, des jeux de plateforme en 2D. Ouais. Et c'est pas nécessairement clair à quel point c'est fabuleux ou utilisable. Alors, je vous rassure, pour le coup, là, je pense que ça va pas remplacer les game designers.
Vraiment, ça donne pas l'impression pour l'instant. Ouais.
Oui, alors, évidemment, je peux pas être catégorique pour le futur, mais là, pour l'instant, c'est tranquille. Dans le futur, peut-être qu'on pourra rendre n'importe quelle image interactive, pour le coup. Ouais. Ça, je sais pas, Sora fait des vidéos. Si un jour, on pouvait prendre le contrôle d'un des éléments de la vidéo générée, enfin, ce serait absolument hallucinant. Tu pourrais imaginer que tu envoies une vidéo d'une session de ton jeu favori, une IA pourrait créer ou prolonger un niveau, ça ouvre des trucs assez incroyables, mais bon, on n'en est quand même pas là. En réalité, Genie n'est pas, malgré les apparences, un modèle fait pour les jeux vidéo. L'objectif secret, qui n'est pas secret du tout en fait, puisqu'il est écrit dans l'article, c'est de créer un modèle qui ait une représentation du monde. Et oui, encore une, vous voyez, tout le monde s'y met, tout le monde veut en faire, mais c'est vraiment ça qu'ils veulent faire. Ils veulent créer un modèle qui est donc son world model à lui, sa représentation à lui. Parce que finalement, Genie, en voyant uniquement des vidéos, est capable d'inférer des actions. Donc de prévoir, c'est un prédicteur des actions à partir d'un état du monde. Alors évidemment, pour l'instant, c'est très limité, puisque il fait juste des jeux de plateforme en 2D, finalement, c'est tout. Et c'est comme ça, son monde à lui, c'est juste des jeux de plateforme en 2D. Mais dans ces jeux de plateforme en 2D, rien qu'en regardant, il a appris comment ça marche, ce qui peut se passer, et il fait des prévisions de ce qui peut se passer. Et le truc, c'est que là, c'est que des plateformeurs 2D, mais ça pourrait être adapté à des contextes beaucoup plus généraux. À la fin de l'article, il y a des démos où un même modèle génie, donc même type, mais entraîné sur des trucs différents, en particulier sur des vidéos de robotique, prévoit des déformations d'objets. Des déformations d'objets, par exemple, le sac de chips qui doit être manipulé par une pince robot. Et l'espoir, c'est que si Genie apprend comment ça marche dans un plateformeur avec des vidéos, bah, des robots ou des agents, hein, au sens large, pourraient l'apprendre aussi dans un cadre beaucoup plus général. L'ambition étant, c'est écrit noir sur blanc, hein, de créer une sorte de modèle du monde de fondation, comme à l'image des modèles fondation pour le texte ou pour l'image, là, ce serait de créer un modèle du monde de fondation qui soit utilisable par toute IA qui en aurait besoin, quoi.
Je commence à être un petit peu marqué, Guillaume, de voir que de plus en plus se distille comme corollaire de l'actu tech autour de l'intelligence artificielle, la robotique. Je ne sais pas si c'est moi qui me fais cette image-là on l'a déjà dit, la semaine dernière d'ailleurs.
C'est totalement l'objectif. Je sais plus. Alors attends, j'ai vu passer une news comme quoi effectivement Nvidia, Amazon, enfin Jeff Bezos et compagnie étaient en train de parier sur les robots, sur les robots humanoïdes à travers Figure, je crois. Et donc mais on est complètement là-dedans. Hein. D'ailleurs, il y a des nouvelles vidéos aussi d'Optimus qui sont sorties. Enfin. On est clairement en train de... Enfin, on tombe vers cet objectif-là. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Quand, si on y arrive, quand? Je ne sais pas. Mais c'est clairement un objectif.
Bon, eh ben, on vous tiendra au courant tant qu'on sera là et tant que les Terminators ne nous auront pas remplacés, parce que vous voyez bien tout de suite comment on peut faire peur avec tout ça. Mais en attendant, on va se rassurer parce que, je le disais en intro, Cocorico, c'est la petite news qui nous permet de bomber le torse, comme ça, hein, nous, bons Français que nous sommes, parce que oui, a été annoncé le chat, et il n'y a pas que le chat. Je dis le chat parce que vraiment, les cofondateurs de Mistral, qui est derrière derrière cette interface veulent vraiment qu'on dise le chat. Moi, j'adore.
Bah, ils ont bien raison. Mais oui, écoute, il y a eu plein d'annonces simultanées finalement de Mistral. La première, effectivement, c'est que la France a désormais son chat GPT et que c'est le chat, absolument. Moi, je ne dirais jamais le chat non plus. C'est le chat. On va discuter avec le chat, exactement. Et c'est beaucoup plus mignon quand même. Donc, bien le sûr. Chat arrive avec un nouveau modèle d'ailleurs de Mistral AI qui s'appelle Mistral Large, le gros Mistral, qui est donc le plus sophistiqué de la boîte et qui est concurrentiel avec GPT-4. Alors, pas forcément meilleur, mais en tout cas, d'après les benchmarks, il est vraiment très proche. Et il est au-dessus de tous les autres, c'est-à-dire au-dessus de Gemini Pro, de Claude 2, de ChatGPT 3.5, etc. Donc Mistral Large est disponible via la plateforme. La plateforme, en fait, c'est la plateforme Mistral, ou via Azure Cloud. Car Mistral vient aussi de signer des accords avec Microsoft. Et, d'ailleurs, Microsoft a aussi investi dans la boîte. Il aurait une part minoritaire, donc il a investi dans la boîte, comme dans OpenAI. Alors, je ne connais pas les montants. Je ne sais pas s'ils ont été... Je sais pas si ça. Enfin,
ah, je crois que j'ai vu passer des montants. Je te laisse continuer. J'ai essayé de voir si je les retrouve. Mais d'accord. En tout cas, on est d'accord pour dire, Guillaume, que si au bout d'un moment, tu t'es pas fait financer en partie par Microsoft à un certain âge, tu as raté ta vie. Hein,
c'est un peu l'idée. Mais enfin, il faut dire que Microsoft, ils ont financé OpenAI et je pense qu'ils sont tout à fait contents d'avoir une sorte de plan B éventuellement parce que. On ne sait jamais, je pense que ce n'est pas idiot du tout. Ils avaient déjà d'ailleurs fait un partenariat avec Meta pour proposer Llama sur Azure. Donc on avait déjà vu ça un petit peu comme un plan B hein, d'ailleurs, et avec Mistral c'est pareil, hein, sauf que voilà, les modèles Mistral sont en plus très forts, donc c'est tant mieux. D'ailleurs le partenariat sera en trois morceaux finalement, donc déjà il y aura l'accès de Mistral à Azure pour l'entraînement et l'inférence, donc en réalité Mistral va utiliser évidemment l'infrastructure Microsoft, ils le feront sans doute à prix d'amis, c'est tant mieux pour eux, hein, parce que je suppose que voilà, ça leur fait des économies. Ensuite, il y a la fourniture de ces modèles via Azure AI Studio, donc voilà, comme on a dit. Donc Mistral Large sera dispo pour les clients Microsoft. Et enfin, il y a une collaboration pour entraîner des modèles conçus spécifiquement pour des clients particuliers, comme des acteurs du secteur public européen. Voilà, on lit secteur public européen. Bon. En tout cas, Mistral Large, comme le Medium et le Mistral, c'est des chats qui sont des modèles, enfin, c'est des modèles pour le chat qui sont plutôt bien multilingues, en fait, de base. Ils ont été entraînés de manière beaucoup plus équitable sur les langues européennes en général, hein, et donc moins, de manière ultra majoritaire sur l'anglais, comme c'est le cas pour tous les autres, en gros. Et donc, du coup, il est possible que le chat soit meilleur en langue française que la concurrence. Donc en tout cas, quand les serveurs seront plus cassés, vous pourrez le tester vous-même, il y a le lien dans les notes de l'émission, hein, c'est royal.
Je suis sur la liste d'attente. Ils ont investi 15 millions d'euros dans Mistral AI qui seront convertis en fonds propres lors de la prochaine levée de plomb. La prochaine levée de fonds, a déclaré un porte-parole de Microsoft à Reuters.
Si c'est 15 millions, c'est pas le même montant qu'OpenAI. Hein.
C'est pas le même montant qu'OpenAI, effectivement. Et pour autant, ça n'empêche pas la Commission européenne d'analyser l'accord entre Microsoft et Mistral AI, comme ils le disent dans le cadre de son examen continu des partenariats en matière d'IA des grandes entreprises technologiques. Je citais Zone Bourse.com. Oui, mesdames et messieurs, on est sur zonebourse.com, rien que ça. Bon, bravo en tout cas, Mistral. C'est chouette. Et puis, Guillaume, amour et pognon, est-ce que c'est pas finalement les mots-clés de l'existence aujourd'hui?
Je pense. On parle argent, mais oui, pour commencer, il y a eu un deal entre Match Group et OpenAI. Parce que voilà, je vous l'avais dit, hein, pour OpenAI, le plus important, c'est l'amour. Honnêtement, c'est quand même le communiqué de presse le plus bizarre et presque malaisant que j'ai pu lire depuis un moment, puisqu'il a été écrit en partie par un chat GPT badin. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le communiqué de presse.
J'aime ce mot, badin d'ailleurs.
Il est content que Match ait matché voilà, avec lui, tout ça pour dire que Match a acquis 1000 licences entreprises de chat GPT pour ses employés. Mais bon, comme c'est Match, évidemment, tout ça est formulé sur le champ lexical de l'amour, du charme et de la tendresse. Alors que bon, à la base, il s'agit surtout de faire en sorte que les employés utilisent chat GPT pour booster leur productivité. Hein, faut quand même pas déconner. Et éventuellement, pour se passer d'une partie d'entre eux. Mais bon, moi, je dis ça parce que bon, le pognon, c'est bon, comme dirait Jensen Huang, le PDG de Nvidia, qui est probablement sorti de son bandeau Guido à l'heure qu'il est. Les revenus d'NVIDIA au dernier trimestre sont de 22,1 milliards, 265% de plus que l'an dernier à la même période. Alors, c'est évidemment le secteur des data centers hein, qui rapporte le plus, qui a le plus grossi d'ailleurs, il a grossi de 409%. Ça fait d'NVIDIA le plus gros acteur, En tout cas, il est plus gros que HPE et IBM sur le secteur du matériel serveur. Le cours de l'action NVIDIA a monté donc à $780 le 22 février. Ce qui a permis à Jensen, d'ailleurs, qui possède 3,7% de la boîte, de gagner presque 10 milliards du jour au lendemain. Bon, c'est virtuel, il n'a rien vendu, donc ça reste virtuel. Enfin, ouais. C'est quand même frappant, il est devenu le 21e homme le plus, enfin, la 21e personne la plus riche du monde, avec 69,2 milliards de dollars de fortune personnelle, ce qui veut dire qu'il existe encore 20 autres personnes avec plus de 69 milliards de fortune personnelle, et plein d'autres avec plusieurs dizaines de milliards de fortune voilà, de sur le livret A. Je vous laisse méditer sur ce que ça signifie pour notre monde, mais bon, ce que ça veut surtout dire, c'est que le cours de l'action Nvidia a été multiplié par 5 depuis le début 2022. Et on peut dire que Jensen, il a eu le nez creux, parce que il a fait ça fait quand même une dizaine d'années hein, qu'il a orienté Nvidia vers le calcul parallèle massif et l'IA en particulier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a payé. Cash. Mmh. Alors le business original de Nvidia, le jeu vidéo aussi, est en croissance d'ailleurs, hein, mais de 15%. Bon, ça rapporte toujours pas mal finalement, mais bon, voilà, c'est pas pareil. Pas du tout autant que le secteur pro, et avec la sortie des H200 et une vogue de l'IA qui ne faiblit pas pour l'instant, ça pourrait continuer encore un peu. Cela dit, combien de temps, c'est pas si clair, parce qu'une explosion aussi rapide du cours de l'action, ça peut être quand même suivi par une correction. Aussi improbable que ça paraisse aujourd'hui, la correction est possible.
On verra si elle arrive. En tout cas, en attendant, Nvidia, on le rappelle, a dépassé la valorisation boursière d'Alphabet, Google et Amazon, c'est quand même pas rien. Allez, on met de côté un petit peu cette première rubrique, mais vous allez voir qu'on va continuer activement parce que ça nous passionne et parce que c'est le pouls de l'actualité tech à parler d'intelligence artificielle. Et on a un petit peu de recul, Guillaume, sur les usages dans les environnements un peu bureautiques et les intentions, en tout cas, de déploiement dans les environnements bureautiques des assistants basés sur l'intelligence artificielle.
Ouais, tout va pas forcément super non plus tout le temps hein, dans le monde de l'IA. Hein, si les boîtes du secteur continuent de marcher sur l'eau pour le moment, 2024 ou 2025 pourraient être des années moins fastes, parce que c'est clairement cette année que l'utilité de l'IA dans les grandes boîtes, de l'IA proposée par donc, Google ou Microsoft, hein, pour la bureautique, va pouvoir être mesurée. Et surtout, le rapport utilité-prix, parce que c'est pas gratuit non plus. Hein. Donc Google va revoir sa grille tarifaire, d'ailleurs, pour les entreprises, donc pour intégrer un forfait Gemini à Google Workspace, donc des versions plus sécurisées, plus respectueuses de la confidentialité des données. On aurait donc une sorte de copilote à la Google sur Gemini, basé sur Gemini, hein, pour les entreprises, et comme copilote, ben, il faudra payer un extra. Et cet extra pourrait être de $30, ce qui n'est pas donné, puisque l'abonnement à Workspace lui-même est de $12, donc ça ferait $42 par mois au total, c'est quand même, bon voilà, on est quand même en droit d'attendre un retour sur investissement, quoi, hein, parce que c'est quand même par personne. Donc on sait que les IA sont loin d'être gratuites à faire tourner, donc c'est pas choquant que ça soit pas gratuit, enfin voilà, que ce soit pas gratuit. Cela dit, à quel point est-ce que l'ensemble est séduisant la réponse chez Microsoft Copilot semble être presque. Copilot, il s'est lancé le mois dernier pour $20 par mois, Copilot Pro, et un journaliste de The Verge l'a utilisé depuis sa sortie, quoi, et il a une conclusion un petit peu mitigée. Alors, l'accès privilégié à DALL-E 3 est pratique, la possibilité d'avoir un résumé de mail ou même de conversation de mail entière, c'est vraiment utile. L'assistance améliorée sur PowerPoint est aussi un plus, parce que ça va quand même beaucoup bien au-delà hein, d'avoir juste des modèles préenregistrés. Et bon, bien sûr, Copilot peut aussi écrire pour toi sous Word, sous OneNote, il peut reformuler des trucs. Mais là, il y a à boire et à manger. Jamais l'IA n'a donné un texte particulièrement fabuleux que le testeur a voulu changer contre le sien. Après, bon, c'est un journaliste. Quand t'es journaliste, c'est censé savoir écrire, déjà. Donc l'utilité, évidemment, peut varier pas mal selon le public. Surtout pour un public qui n'a pas l'habitude d'écrire beaucoup, hein, j'imagine. Par contre, Copilot est encore très limité dans Excel, mais c'est encore en preview. Donc on verra bien. L'un dans l'autre, c'est plus ou moins $20 par mois pour avoir des résumés de mails si on résume les usages qui lui ont le plus plu, quoi. Est-ce que c'est rentable ou pas ? C'est possible, mais c'est pas encore certain. Or, en 2024, les attentes des investisseurs sont pas les mêmes qu'en 2014. Ils veulent des retours sur investissement et assez vite. Et en tout cas, beaucoup plus vite qu'à l'époque des Uber et des autres WeWork. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez de cette époque incroyable. De très nombreux milliards ont été injectés dans l'IA, de très ambitieuses promesses ont été faites et elles seront pas toutes tenues. D'autant que les attentes des investisseurs sont pas toujours rationnelles. Parce que les investisseurs ne veulent pas du bon. Ils veulent pas de l'excellent. Ils veulent du fabuleux. Sinon, ils vendent. Par exemple, Google a eu un excellent trimestre, 86 milliards en hausse de 13% par rapport à l'année précédente. C'est fantastique, mais c'est pas du tout assez, hein, c'est pas assez fantastique, puisque l'action a baissé de 7% le lendemain. Et c'est la même chose pour Microsoft, hein, qui a augmenté son bénéfice net de 33% et qui a quand même vu son action baisser de 2%. Donc d'après PwC, c'est PricewaterhouseCoopers, une énorme boîte d'audit de consulting, l'intérêt pour l'IA est universel, donc tout le monde est intéressé. Ça traverse tous les business et tous les investisseurs attendent des retours dès 2024, qui sera, je cite, un moment de vérité. Bon. Copilot et Microsoft ont une longueur d'avance, hein, donc ce seront aussi les premiers du coup à donner le ton. C'est un peu le canari dans la mine. il a intérêt à être à la hauteur de son coût exorbitant, hein, évidemment, le copilote. Ça concerne un petit peu tout le monde quand même, hein, dont OpenAI, qui n'est absolument pas rentable. OpenAI a dû atteindre 2 milliards de chiffre d'affaires, c'est bien, mais il perd quand même de l'argent. Et il devra lever encore des milliards, ne serait-ce que pour rester en activité. Or, dans l'intervalle, la base utilisateurs de ChatGPT ne grossit plus. Le nom est connu de tout le monde, désormais, c'est devenu aussi commun et connu que Google. Mais en l'état, ben, ça ne suffira pas à rendre OpenAI rentable. En tout cas, les utilisateurs payants ne suffiront pas. Donc on sait qu'ils ont d'autres atouts dans leur manche, hein, puisque bon, ils ont présenté Sora quand même, c'est pas rien. Oui. Mais bon, voilà, les temps sont devenus plus durs, et les multiples vagues de licenciements massifs sont quand même là pour nous le rappeler beaucoup trop souvent. Donc s'il y a une correction, ben, si les boîtes ne font pas aussi bien qu'attendu, et les attentes sont très hautes, ben, il y aura voilà, peut-être des corrections et des répercussions en cascade. Hein, et bon, voilà. Et Jensen Huang ne sera plus la 21e personne la plus riche du monde. Bon, il s'en remettra, le secteur aussi d'ailleurs, hein, mais ça ralentira peut-être un petit peu. Et bon, je ne sais pas, peut-être que ce sera aussi plus reposant au niveau des news, hein, finalement.
Oui, peut-être qu'on va pouvoir se poser un petit peu. On continue aussi sur les mises en application et les changements de ces outils qui arrivent avec une réflexion. Et on pourrait bien voir le New York Times tirer son épingle du jeu dans un conflit juridique, notamment au sujet du copyright contre OpenAI.
C'est une autre fragilité du secteur IA, c'est les problèmes de propriété intellectuelle. Les IA ont besoin de beaucoup de données pour être entraînées, et des données de bonne qualité en plus. Or souvent, les données de bonne qualité ont la fâcheuse tendance à être protégées par un copyright. Et ça, le secteur n'a pas l'habitude, en gros, de ce genre de considération, parce que, en fait, il n'y a pas longtemps, finalement, hein, le deep learning, c'était surtout pratiqué dans les labos, par des scientifiques, dont le but principal, c'est de publier un article scientifique sur telle ou telle nouvelle algo, telle ou telle nouvelle méthode, tout ça. Et pour ça, ils utilisaient les données qu'ils avaient. Donc ils avaient des bases classiques, et puis sinon, ils ratissaient ce qu'il y avait de public sur Internet, et puis basta. Et franchement, tant que c'était pour la recherche, que c'était ponctuel, il n'y avait pas des masses d'objections. Sauf que, presque du jour au lendemain, tout ça est passé à l'échelle industrielle, et se pratique plus dans des labos, mais dans des multinationales multimilliardaires. Et donc ça change pas mal de choses. Donc les ayants droit ne seront plus trop d'accord. Et un des procès les plus spectaculaires médiatiques, hein, sur le sujet, hein, on l'a relaté, c'est l'attaque d'OpenAI par le New York Times. OpenAI aurait utilisé, sans rien demander, des millions d'articles du Times, les copiant donc en masse, et le journal attaque donc en violation de copyright massive. OpenAI objecte en disant que c'est du fair use, un usage raisonnable, équitable, qui ne met pas en danger la propriété intellectuelle du Times, puisque en fait, le produit que fait OpenAI ne sert pas à produire des copies des articles en question. Et à première vue, ça se tient. Parce que le but du copyright, c'est de protéger de la copie. Or, OpenAI ne fait pas de copie directe, ni même de copie approchée des articles du Times. Il produit un chatbot, et bon, ce chatbot, il n'est pas fait pour produire des copies du Times. C'est ce qui fait dire à Daniel Jeffries que le Times n'a aucune chance de gagner. Sauf que James Grimmelman, qui est prof de droit à Cornell, et d'ailleurs aussi Tim Lee, qui est journaliste chez Ars Technica, ne sont pas tout à fait d'accord. Et en fait, ils essayent d'y voir plus clair en analysant les précédents, ce qui s'est passé dans le passé, tout simplement. Donc, principalement, ils se concentrent sur trois cas. Donc, trois gros procès que les ayants droit ont lancés pour violation de copyright contre trois boîtes tech à des époques différentes. Sur ces trois, il y en a un seul qui a été gagnant. Les trois cas sont intéressants parce qu'à première vue, on les aurait tous donnés gagnants. Le premier concerne mp3.com, une vieille boîte début 2000 hein, dont le but était simple. Hein. Vous évitez de ripper vos CD. Oui, souvenez-vous, c'est de soulever en plastique argenté là. Le but était simple, vous achetez un CD, vous le mettez dans votre PC, et mp3.com vous donne un accès en ligne, immédiatement, sans même que vous ayez à fabriquer les mp3 vous-même. Pour faire ça, mp3.com possédait lui-même en masse des mp3 protégés, qu'il copiait pour en donner l'accès aux utilisateurs. Mais il ne le faisait que si les utilisateurs en question avaient le CD, donc les droits d'avoir la musique en mp3, puisque vous avez légalement le droit de ripper un CD pour vous-même, hein, pour le mettre sur un baladeur mp3. Si vous ne comprenez pas tous les mots, c'est pas grave, vous êtes trop jeune. C'est, tout ça est un vocabulaire antique d'avant
un
Spotify.
Un baladeur désolé. MP3, c'est quoi?
Oui, désolé. Pas,
c'est quoi?
Je sais. Mais bon, ce qui est autorisé dans le cadre privé par un genre tout seul n'est pas nécessairement reproduit à l'échelle industrielle. Et l'utilité et le côté transformatif du service n'a pas convaincu le juge, d'ailleurs, qui a condamné MP3.com à 25 000 $ de dommages et intérêts pour chaque CD qu'elle a copié. Et ça a tué la boîte. La deuxième affaire, c'est l'affaire Texaco, qui est une boîte pétrolière qui, dans les années 90, avait une bibliothèque interne, avec des abonnements à des journaux scientifiques hein, que les employés photocopiaient à loisir, et ils se sont fait poursuivre par les éditeurs. Pourtant, la photocopie individuelle d'un article à des fins de recherche est autorisée. L'affaire est allée en appel et Texaco a perdu. Ce qui est autorisé ponctuellement dans un cadre académique ne l'est pas à l'échelle de centaines d'employés dans une boîte privée. Mmh. Le troisième exemple, par contre, est une victoire pour la tech, et il est plus familier, c'est Google et sa recherche de bouquins. Alors, parce qu'en 2004, Google s'est mis dans la tête un truc fou. il s'est dit, je vais scanner tous les livres du monde, je vais scanner. Donc, ils ont scanné des millions de livres pour permettre la recherche dans le contenu des bouquins. Les éditeurs sont là, ils sont là aussi montés au créneau, bien sûr, hein, mais Google a objecté que c'était du fair use. Et en 2015, il a gagné. Et pour plusieurs raisons. Déjà, Google a pris garde de ne montrer que de petits fragments des contenus des livres, de manière à ce que, même avec plein de recherches, on puisse jamais reconstruire une portion significative d'un bouquin. Ensuite, le service de Google est transformatif. C'est-à-dire qu'il ne met pas à disposition des livres. Il permet la recherche dans des livres, et voire la recherche de livres, et les gens pourraient d'ailleurs, ça pourrait même déboucher sur des achats de livres. Donc c'est un service utile, qui fournit des informations factuelles, hein, que tu peux trouver dans certains bouquins, et donc ces informations factuelles ne sont pas copyrightables. Une information factuelle ne peut pas être copyrightée. Donc, du coup, il n'est absolument pas en concurrence avec le business des éditeurs eux-mêmes. Et bon, ils ont gagné, et ce cas est très important parce qu'OpenAI, il va s'en servir comme précédent et adopter sans aucun doute la même ligne de défense. Or, le cas d'OpenAI n'est pas tout à fait le même que le cas de Google. Parce que leur argument, c'est aussi que l'usage fait des données du New York Times, il est complètement transformatif. Et qu'il n'est pas en concurrence avec le journal. Après tout, ces IA apprennent comme nous. Elles apprennent en lisant des choses, mais pas en les copiant. Elles apprennent des textes, mais sans les enregistrer. Ce qui est vrai. Mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est que justement, les IA génératives peuvent effectivement générer des textes ou des images qui contiennent des contenus protégés. Il arrive que GPT ressorte des textes très proches des articles originaux, si on le prompte pour, et on sait très bien que les générateurs d'images peuvent créer des Mario, des Mickey ou des Iron Man très 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 reconnaissables, avec toutes les caractéristiques qu'il faut, ou qu'il faut pas, justement. Et bon, comme avec MP3 ou Texaco, on est en présence de grosses boîtes privées qui copient du contenu à très grande échelle, et on a vu que les juges peuvent être sévères avec ça. Donc on a un service qui est certes transformatif, mais qui peut quand même régurgiter de manière plus ou moins directe du contenu protégé. Puisque l'image de Mario, elle appartient à Nintendo, hein, mais DALL-E 3 est capable d'en reproduire à la perfection. Donc, pour finir, le fait qu'OpenAI ne soit pas en concurrence avec le Times, même d'ailleurs, n'est pas si évident en réalité, hein, étant donné que le but d'OpenAI, c'est de créer une AGI qui sache faire absolument tous les boulots. Bon. Donc, le Times veut sans doute de toute façon pas la mort de ChatGPT, mais certainement une grosse compensation financière avec des accords de licence. C'est ce que demandent souvent les ayants droit. Et c'est là que le prof de droit donne son argument final, d'ailleurs. S'il existe déjà un système bien établi pour gérer les licences d'un truc donné, il est plus probable que le juge penche vers du côté des ayants droit. Pour MP3.com, le système de licence pour la musique existait déjà. Pour Texaco aussi, il existait un pour les articles protégés. Pour Google, en revanche, au moment des faits, il n'y avait pas de structure pour licencier des scans de livres par million. Mm-hmm. Personne d'autre ne faisait de moteur de recherche de livres non plus, de toute façon. Or, en ce qui concerne OpenAI, les accords de licence pour les données d'entraînement des IA existent déjà. On en a parlé ici, OpenAI lui-même a signé un deal avec la société de presse. Donc, tout est possible. Le juge mesurera aussi l'utilité de ChatGPT, hein, qui est utilisé comme par des millions de gens, donc il va sûrement pas tuer la boîte. Donc OpenAI peut gagner, et d'ailleurs de rien payer du tout, hein, mais c'est pas du tout cuit. Hein. Et on pourra aboutir à des dommages et intérêts, alors probablement pas 25 000 $ par article, parce que ça tuerait la boîte pour le coup aussi. Ouais. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, c'est un procès qui s'annonce important pour l'industrie au sens large, qui pourrait s'avérer peut-être plus palpitant que ce qu'on croit.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est de comprendre un petit peu quelles vont être les conclusions, parce que ça va structurer la manière dont se passent les choses, en fait, hein, parce que tout va se baser sur ces arbitrages-là. J'imagine que ça va créer évidemment des précédents et de la jurisprudence. Guillaume, on a un problème. ChatGPT, derrière toute la conscience qu'il a commencé à comprendre que c'était pas désagréable de prendre un peu de drogue de temps en temps, ou en tout cas de boire un peu d'alcool, et a fait un peu de n'importe quoi dernièrement.
C'est ça, ChatGPT est parti en sucette la semaine dernière. On a parlé d'attaque cérébrale, ce qui est plutôt marrant. Enfin, si vous aviez pas vitalement besoin de lui à ce moment-là, c'était marrant. La viralité du phénomène, d'ailleurs, enfin du problème, montre que ChatGPT est vraiment devenu un outil d'usage assez massif quand même, puisque ça s'est propagé très vite. Le problème se situait en fait pas du tout sur le modèle lui-même, c'est-à-dire que GPT en lui-même, il n'était pas affecté. Le souci se situait au niveau du sampler. Alors, et vous savez bien de quoi il s'agit, hein, si vous suivez ce podcast attentivement, le sampler, c'est le programme qui choisit effectivement les mots selon les prédictions du modèle. Parce que voilà, ChatGPT, enfin GPT lui-même, c'est GPT-4, hein, c'est pas un chatbot, il produit pas de texte, c'est juste un prédicteur. Fait que donner des probabilités pour le mot qui suit une portion de texte, et c'est tout. Ce qu'on fait de ces probabilités, ben c'est pas son problème à lui. Hein. C'est le problème d'autres programmes de bout de code qui vont choisir le mot, et ce bout de code, c'est le sampler, et il peut le faire selon plein de manières différentes, avec plein de réglages possibles. Et on en a reparlé là aussi plein de fois, hein. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, puisque de toute façon, OpenAI est resté très vague sur le sujet. Mais voilà, ils ont fait un réglage sur le sampler, qui a mal tourné, et ChatGPT est devenu bizarre, voire débile. Et c'est une bonne illustration du fait qu'un chatbot, c'est quand même un assemblage de programmes qui repose, sur un modèle de langage, mais c'est un assemblage assez complexe, en fait, qui implique tout un ensemble de réglages qui sont parfois délicats et qui peuvent avoir un impact énorme sur la qualité des productions. Et justement, un nouveau modèle de langage open source est sorti cette semaine et a été injustement traité, c'est Gemma. Alors Gemma, en fait, c'est un couple de modèles, c'est deux petits modèles qui ont été mis à disposition de la communauté en open source par Google/DeepMind. Donc ce sont des petits Gemini. J'imagine qu'ils ont été entraînés sur les mêmes trucs que Gemini. Donc c'est des petits Gemini de 2 et 7 milliards de paramètres. Donc des petits modèles, mais qui ont été surentraînés sur apparemment 6 000 milliards de mots. Donc un corpus immense, et on sait que ça peut faire une différence, puisqu'entre la main et la main 2, en fait, la seule différence globalement, c'est la taille du dataset. Google, donc, dans son post de blog, annonce d'ailleurs que son modèle à 7 milliards de paramètres bat à plate couture l'AMA 2 13B, donc un modèle qui est deux fois plus gros, mais il n'y a pas de comparaison avec Mistral. Hein. Mais bon, voilà, c'est un truc qui devrait être compétitif avec Mistral. Alors bien sûr, très rapidement, on a eu des tests, et là, c'est le drame. Aïe. Assez vite, le modèle a été compatible avec LM Studio et on pouvait facilement le tester. Sur YouTube, j'ai vu une vidéo de Matthew Berman, si vous voulez savoir, qui l'a testé et qui l'a littéralement descendu. Et alors, Gemma était le pire modèle qu'il avait testé. Aïe. Et effectivement, il en a vu passer bien d'autres. Alors, bien sûr, j'ai testé moi-même avec mon brave LM Studio une version de Gemma qui n'est pas trop grosse, mais pas trop compressée non plus. Et effectivement, le modèle est débile. Il est affreusement nul, au point de même pas savoir orthographier correctement ses mots et de pas faire des phrases correctes. Et là, tu te dis, mais comment c'est possible ? J'ai vu beaucoup de gens s'arrêter là et se dire « Ouais, le modèle est tellement censuré, aligné qu'il est devenu inutile, Google est complètement largué, machin. Bon. » Sauf que c'est pas possible. Une boîte comme Google a une image de marque à tenir quand même, dans le milieu de l'IA en plus. Il est inconcevable qu'ils rendent public un modèle qui soit aussi mauvais et qui sait même pas écrire. Surtout qu'ils sont absolument pas obligés de mettre un modèle en open source quand même. Hein. C'est personne les force. Et en réalité, Gemma, il est pas mauvais du tout. Il est juste inhabituellement sensible à un réglage particulier qu'on oublie d'ordinaire et qui est la pénalité de répétition. Et là aussi, on se situe au niveau du sampler, parce que ce programme, donc, il choisit les mots en fonction des réglages. Alors, les réglages, il peut y en avoir plein, donc il y a la température, voilà, il y a le type de sampling, TOPCA, MINP, etc. Il applique aussi une procédure pour éviter au modèle de se répéter et de partir en boucle. Si les mêmes mots reviennent, en gros, leur probabilité est nerfée, quoi. Leur probabilité est artificiellement réduite pour éviter que le modèle parte en boucle. Or, Gemma, il supporte pas ce truc. Donc, si vous désactivez dans les réglages la repetition penalty, non seulement Gemma cesse d'être débile, mais il est plutôt bon. Je l'ai pas testé des heures et des heures non plus, hein. Je ne saurais pas dire si c'est vraiment le couteau le plus aiguisé du tiroir, mais il me semble tout à fait compétitif. Et même mieux, j'ai été assez agréablement surpris par le tout petit modèle de 2 milliards de paramètres, hein, parce que c'est vraiment petit, je n'attendais pas grand-chose. En fait, il est pas si mal, il est évidemment super rapide, même sur une patate. Donc la nouvelle, c'est que Google a mis en open source des modèles de langage, hein, comme Meta avant lui. Il se lance lui aussi, et c'est une très bonne chose parce que ces modèles ne sont pas lobotomisés. Non, je soupçonne que le scandale des Viking Black qui a eu lieu à peu près au même moment, finalement, n'a pas dû aider, si tu veux, pour l'image générale du truc.
Ouais.
Et c'est un petit peu dommage pour Gemma. Quoi.
À suivre du coup pour Gemma, et puis en espérant avoir des performances à la hauteur. On continue dans la galaxie Google toujours. Est-ce qu'on doit parler de Gemini Pro plus en détail?
Oui.
Encore notamment sur l'interprétation un peu gênante qu'il fait. Et puis alors quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il est devenu woke en fait, c'est ça Guillaume? C'est ça que tu veux nous dire, hein?
Non mais là c'est pas du wokisme du tout. Enfin, c'est juste il est parti en couille. D'ailleurs, Google s'est excusé. Hein. Je pense que c'est un peu passé sur tous les sites. Hein. La génération d'images de Gemini Pro a fait scandale la semaine dernière parce qu'elle produisait des images biaisées, mais biaisées pas dans le sens où on en parle d'habitude en fait, hein, puisque même biaisées complètement à l'envers. En fait, Gemini Pro, quand on lui demandait de générer des vikings, il produisait des gens habillés en vikings, hein, ça d'accord, mais qui étaient voilà, black, asiatiques, ou vraiment très bronzés pour des vikings, quoi, pour des suédois. Mm-hmm. Quand on lui demandait des chevaliers de Moyen-Âge, il faisait des femmes en armure. Pour les pères fondateurs, on avait droit à des femmes et des blacks. Il produit volontiers des femmes papes, et même des nazis blacks ou asiatiques. Et tout ça, bien sûr, sans qu'on lui demande explicitement. C'est quand on lui demande d'ethnicité ou de genre. Alors, évidemment, c'est débile, parce qu'il n'y a jamais eu de femme pape. Il n'y a jamais eu de Viking Black. Si tu commences à montrer de la diversité ethnique chez les nazis, tu rates probablement quelque chose de l'idéologie de l'époque.
Ah oui, c'est sûr.
Et c'est débile, et Google s'en est excusé. Le but original, c'était de lutter contre les biais de Gemini, hein, des Gemini Pro, qui semblaient en avoir, comme d'ailleurs en Stable Diffusion, hein, globalement. Si tu demandes une image universelle, c'est-à-dire si tu dis rien, c'est-à-dire tu dis « je veux une photo d'une personne qui promène son chien », une personne qui promène son chien, ça peut être un homme, une femme, ça peut être un asiatique, un indien, on ne sait pas. Donc le but, c'était de diversifier sans doute la génération dans des situations où rien n'est demandé de particulier, finalement, et où a priori, tout est également possible. Et ça, ça éviterait de mettre, par exemple, 95% d'hommes blancs quand on demande un CEO, par exemple. Tu vois, parce qu'un CEO, bah, c'est un CEO. Si on ne demande rien, bah, rien n'indique, si on ne dit pas comment il est, bah, il n'y a pas de raison qu'il soit particulièrement plus quelque chose qu'autre chose. Bon, le souci, c'est que Google a surcompensé et que ça donne, du coup, des trucs absurdes. Hein. Si tu lui demandes une image du pape, bah, il peut te mettre une femme, bah, alors que bon, bah, non, mais il n'y a pas de femme pape. Hein. Si tu lui demandes des images de sénateurs américains dans les années 1800, bah, c'est vraiment très maladroit de mettre des Indiens ou des Blacks, vu la manière dont ils étaient traités à l'époque. Et puis bon, si tu veux une illustration, de base, bah, tu l'as vu qu'elle soit à peu près crédible en général. Donc pour le moment, Gemini Pro ne génère plus d'images du tout, comme ça c'est plus simple, hein. Ils sont en train de corriger le problème, donc on verra bien ce que ça donne dans les prochaines semaines.
Bon, là, ça en dit long sur sa représentation du monde, il manque encore un peu de ressources de son côté. Et puis on termine, Guillaume, en matière d'intelligence artificielle.
Ouais, alors on parle souvent des hallucinations des modèles de langage hein, qui écrivent des conneries, des chats qui te montent sur le front haut, qui inventent des faits, des chiffres, tout ça avec assertivité. Mais les modèles multimodaux aussi peuvent halluciner. Hein, le fait de pouvoir aussi comprendre les images, ça ouvre en réalité tout un champ d'hallucinations supplémentaires. Des chercheurs de chez Apple se sont amusés avec plusieurs modèles commerciaux et open source. Et en particulier GPT-4 Vision, Gemini Pro, Lava 1.5, Coq VLM. Et le but du jeu, c'est d'induire en erreur les modèles en introduisant une incohérence entre les images et le texte. Par exemple, tu lui présentes une photo avec deux chiens et tu lui demandes « Est-ce qu'il y a un chat dans l'image ?» Bon, ben, en général, il va te répondre « Bon, ben non, il y a deux chiens. » Et puis tu lui demandes « De quelle couleur il est le chat dans l'image ?» Et là, Lava, il te dit bah, « Le chat, il est noir et blanc. » Au lieu de te renvoyer dans tes buts, le modèle a tendance à essayer de te répondre malgré tout et du coup, il raconte n'importe quoi.
C'est ce qui illustre le fait que quand on demandait pourquoi est-ce que les œufs de tigre sont plus gros que ceux des poules, il arrive à te donner des justifications. C'est un peu la même logique.
Ah oui, je pense effectivement.
Au début, hein, ça a été corrigé depuis.
Je pense qu'il y a un truc comme ça.
Un parallèle à faire, sans doute. Ouais.
Tout à fait. Et en fait, il y a pas mal de manières de prendre un modèle multimodal pour un abruti. Hein. Le nombre d'objets, par exemple, tu lui demandes ce que font les trois gamins dans l'image, alors qu'il n'y en a que deux. Ben là, il est obligé de t'inventer un troisième qui fait un truc, tu vois. Ou bien tu lui demandes ce que fait le gars sur le cheval noir qui n'est pas noir, et il confirme que le cheval est noir. Enfin voilà, tout. Il y a six catégories d'enfumage qu'ils ont utilisées pour créer un test set qui s'appelle MAD, d'ailleurs, et c'est 850 questions qui mesurent la fragilité des modèles multimodaux. Et malheureusement, la conclusion, c'est que les modèles open source sont très fragiles. Lava 1.5, n'arrive à détecter qu'on essaye de le posséder que 10% du temps. Coq VLM 30%, le tout dernier Lava 15%, c'est peu, mais Gemini Pro fait pas énormément mieux puisqu'il est à moins de 22%, il n'y a que GPT-4 qui s'en sort honorablement avec 75% de bonnes réponses. Bon, les trois quarts du temps, il ne se laisse pas abuser, il détecte le souci. Il y a un moyen simple de booster les performances des modèles, hein, c'est de prévenir en quelque sorte, c'est-à-dire de mettre dans un prompt un truc comme « Attention, fais gaffe et réfléchis bien », c'est à peu près ça, franchement. Bon, mine de rien, ça booste les bonnes réponses de 8 à presque 30%. Alors ça fait une différence pour Gemini Pro, qui devient quand même vraiment plus crédible. Pour Lava, on partait de trop bas. Donc voilà, la multimodalité, c'est bien. Et après, c'est aussi une autre source de problème, évidemment.
Je suis en train de me creuser le cerveau, j'ai un bug, Guillaume. Je viens de demander à Copilot, là, GPT-4. Je suis dans une course, je suis troisième au classement. Si je double celui qui est devant moi, je serai en quelle position? Et il me dit, si vous doublez le concurrent qui est actuellement en deuxième position, vous prendrez sa place, mais cela ne change pas votre classement. Vous serez donc toujours troisième. Mais non. Bon, pardon, excuse-moi. Je ne devrais pas faire des tests comme ça en live pour essayer de mettre à mal les...
Ça part en live.
Quand, tu vois, tu m'inspires sur des manières de hacker ces trucs-là. Bon, Guillaume, plutôt que de faire n'importe quoi avec le conducteur de l'épisode, je te propose plutôt qu'on se recentre et que je revienne sur les rails que tu as installés pour nous et qu'on parle un petit peu de jeux vidéo avant de conclure cet épisode. Parce que oui, on teasait hein, quelque part, on laissait entreapercevoir un possible futur bouleversement pour les jeux Xbox. Quoi de neuf, Guillaume ?
Mais écoute, on sait enfin quels jeux Xbox sont devenus multiplateformes. Hein, donc, il devait y avoir deux petits jeux, et ces deux petits jeux sont manifestement Pentiment, le polar médiéval, et Grounded, le jeu de Chéri, j'ai rétréci les gosses, qui n'a pas la licence. Et ils arrivent sur Nintendo Switch, d'ailleurs, en plus des PS4 et PS5. Alors après, ils avaient dit aussi qu'il y avait deux jeux dits community-driven, c'est-à-dire une grosse communauté. Et donc apparemment c'est Hi-Fi Rush et Sea of Thieves qui sortent quant à eux sur PlayStation 5 uniquement. Donc il faudra attendre le 30 avril pour jouer au MMO Pirate, le 16 avril pour rétrécir ses gosses, le 19 mars pour taper des robots en rythme. Bon, si votre truc c'est plutôt l'amour courtois et le supplice de la roue, par contre, Pentiment est déjà dispo partout. Alors effectivement, on peut pas parler de licence majeure quand même, hein, même si Sea of Thieves c'est quand même un assez gros jeu Microsoft, hein, qui a été très joué, et qui l'est probablement toujours d'ailleurs. Mais bon, voilà, il n'y a pas d'affolance. Halo, Gears of War, Forza sont toujours bien au chaud sur votre cube noir favori. Et bon, par ailleurs, après avoir assuré son monde, hein, comme quoi Microsoft n'allait pas arrêter les consoles tout de suite, Phil Spencer en remet une couche pour affirmer qu'il n'allait pas non plus arrêter les consoles avec des lecteurs de disques tout de suite. Donc ils continueront à sortir des jeux en physique. Et manifestement, ça le gonfle. Il dit que de moins en moins de gens fabriquent des lecteurs, en réalité, et de moins en moins de fabricants de lecteurs, tout simplement, parce que le lecteur physique, ça devient rare, et en réalité, c'est de plus en plus difficile de trouver des gens qui font des lecteurs Blu-ray, apparemment. En tout cas, qui en produisent en quantité suffisamment énorme et à suffisamment pas cher pour les foutre dans des consoles de masse, quoi. Donc du coup, ça pourrait devenir, voilà, alors peut-être qu'ils nous préparent tout simplement à une future Xbox Series Z à 800€, ça je sais pas trop, mais bon, c'est ce qu'il a dit. Il dit que ça pourrait devenir un problème de coût à l'avenir. Donc j'en sais rien, mais bon, en tout cas, voilà, ça ne ferait pas partie de la stratégie de Microsoft de nous faire tous passer au démat. C'est juste un désir profond, hein, ils voudraient vraiment, mais bon, c'est pas une stratégie. Peut-être parce que les gens en reviennent un petit peu du démat et du Game Pass, je sais pas, le Game Pass c'est très cool, hein, attention. Mais je suis pas sûr que la majorité des gens soient ok avec l'idée de ne jamais posséder aucun jeu. Voilà, n'en déplaise aux grands éditeurs et constructeurs, hein, qui trouvent ça tout à fait normal. Mais en fait, je suis pas certain que tout le monde soit parfaitement ok avec cette idée de bon ben voilà, t'arrêtes le Game Pass, ben, ta console est vierge, tu n'as strictement plus rien à faire dessus. Je suis pas complètement certain que ce soit parfaitement intégré ça.
Ouais, je pense que c'est là le nerf de la guerre, hein, c'est de dire que oui, ok, t'as tout ce que tu veux tant que tu payes. Le jour où tu ne payes plus, même si ça n'arrivera peut-être jamais, conceptuellement, c'est une crainte à laquelle on ne veut pas se raccrocher, je pense. Très bien. Guillaume, tu as trouvé enfin une utilité, oh, je te sens ironique, au portal de PlayStation. Cette espèce de console qui n'en est pas une et qui te permet d'accéder à ta console, à ta PlayStation 5, à distance. Mais à distance, oui, si à distance, je crois que ça fonctionne en remote, hein, contrairement à ce qu'on pensait, si je ne dis pas de bêtises.
Bah, c'est bon, oui, enfin, disons, quand tu as du Wi-Fi et...
une bonne connexion, quoi.
Il faut une bonne connexion Wi-Fi, mais après, oui, ça fonctionne en remote. De bonnes nouvelles du côté de chez Sony et une grosse mauvaise. Bon, ça, c'est un truc que j'ai vu vraiment ce soir, c'est que bon, apparemment Sony PlayStation va licencier 8% de ses effectifs. Ça représente à peu près 900 personnes et ça touche à peu près tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quand même une grosse mauvaise nouvelle. Bonne mauvaise nouvelle, quoi. Hein. Donc c'est vrai que j'étais parti sur de manière un petit peu. Effectivement, de manière un petit peu rigolote, deux bonnes nouvelles du côté de chez Sony avec le PlayStation Portal, le PSVR 2, mais bon, il y a quand même une énorme mauvaise nouvelle qui vient de tomber, hein, qui est tombée juste aujourd'hui, il n'y a pas longtemps. Donc bon, c'est pas très sympa, mais bon, effectivement, le PS Portal et le PSVR 2 sont peut-être sauvés de l'oubli complet, va savoir. Donc le PS Portal vient d'être hacké pour faire tourner des émulateurs dessus. Donc du coup, ça peut devenir... quand tu hackes un PS Portal, en gros, ça devient une tablette, hein. Et pas juste un appendice comme ça sur un numéraire à 200 balles. Et du coup, ça devient une tablette sur laquelle tu peux faire fonctionner des trucs rigolos, comme par exemple un émulateur PSP, ce qui fait que tu peux jouer à GTA. donc à GTA Vice City, par exemple, sur ton PlayStation Portal. Alors évidemment, c'est pas officiel, et Sony est sans doute fermement opposé. C'est ce qui est même dommage, en fait. Mais bon, Sony s'est souvenu aussi, soudainement, qu'il avait sorti un casque VR il y a un an. Oui, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, tiens, on avait sorti ça. Et donc, ils ont annoncé des gros jeux dessus qui tuent. Non, pas du tout. Non, ils n'ont pas du tout à croire. Rien de tout ça. Ils ont juste annoncé qu'ils travaillent sur la compatibilité PC. Donc, dans un futur proche, on pourra donc profiter de la qualité pas vilaine, hein, de ce casque, hein, pour jouer à Half-Life Alyx. Et ça peut être finalement ce qui peut arriver de mieux au PSVR 2. Parce que malheureusement, le PSVR 2, disons qu'il est un petit peu sous-exploité sur la PlayStation 5, hein, puisque la majorité des jeux sont des portages Quest, qui n'utilisent pas optimalement les capacités de la console, on va dire. Et c'est dommage. Parce que c'est un bon casque, le PSVR 2, il n'est pas donné, mais c'est un bon casque dans l'absolu. Il est supérieur à un Valve Index, hein, il est comparable en résolution à un Quest 3, avec des écrans OLED HDR. Et en fait, si tu passes dans l'univers PC, son prix, il n'est pas choquant du tout, en réalité. Sur console, évidemment, ça fait un peu mal, parce qu'il est aussi cher que la PlayStation 5, en fait. Mais sur PC, c'est le prix des casques VR est nettement plus élevé sur PC, finalement, bon... Pourquoi pas? Donc Sony a de toute façon annoncé une ouverture vers le PC avec des portages de gros jeux ces derniers temps. Si ça se poursuit avec le matos, écoute, finalement, pourquoi pas? C'est une bonne nouvelle.
Il me semblait qu'ils avaient largement étoffé le catalogue du PSVR 2. Du coup, tu me confirmes que bof, pas trop, quoi, en fait. Enfin, j'ai du mal à
non, alors, non, il est étoffé. C'est-à-dire qu'il y a des jeux. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de triple A. Il n'y a pas de vrais gros... Enfin, il y a, très peu de vrais gros jeux qui utilisent à fond les capacités de la console et qui sont vraiment beaucoup, beaucoup plus beaux que les jeux sur Quest. C'est ça, le souci.
Ouais,
c'est que si c'est pour avoir des qualités de jeu qui sont comparables au Quest, bah, achète un Quest parce que c'est plus cher, c'est moins cher, pardon, c'est tout en un. Tu peux le brancher à un PC, lui. Tu vois, et c'est ça le problème en réalité, c'est qu'il n'y a pas assez de jeux qui t'explose la tronche graphiquement quoi, sur PSVR 2, c'est très dommage.
Et la promesse, pour terminer, d'avoir un écran comme ça qui est à dispo dans un casque d'une taille satisfaisante pendant que la télé du salon est occupée par la famille, c'est un usage. Moi, j'avais vu remonter ça, qui semble être...
C'était déjà vrai pour le PlayStation VR premier du nom, je pense pas que c'était vraiment le... Tu vois, c'est un truc sympa. Mais est-ce que c'est un motif suffisant pour être une killer app?
Pour beaucoup.
Mais t'en aurais beaucoup.
Exactement. Bon, eh ben, peut-être qu'il va revivre, il va renaître de ses cendres. Et puis, on va terminer, Guillaume, avec le Nintendo Direct.
Écoute, il y a eu le Nintendo Direct, effectivement, avec plein de jeux, beaucoup trop de jeux. D'ailleurs, je les ai pas du tout tous en tête, mais bon. C'est là d'ailleurs qu'on a vu qu'il y avait Grounded et Pentiment qui allaient sortir sur Switch, hein, puisqu'ils ont été annoncés à cette occasion-là. Alors je sais pas si t'as vu un truc qui t'a fait de l'œil au Nintendo Direct, ou si tu es à fond sur Erdtree, le prochain DLC d'Elden Ring, je sais pas.
Alors effectivement, j'ai bloqué mon 21 janvier pour le DLC, puisque j'ai un ami qui m'avait converti à Elden Ring, qui est un peu mon mentor, tu sais, c'est lui qui m'a vu 2-3 fois à des moments un peu stratégiques du jeu dans Elden Ring et qui m'aidait à avancer. Et je pense franchement, au passage, c'est un bon conseil qu'on peut donner à celles et ceux qui seraient encore rebutés par Elden Ring, parce que c'est vraiment une chouette expérience. C'est de se maquer avec quelqu'un qui a déjà fait le jeu et qui a déjà quelques expérimentations derrière lui et qui peut vous aider à avancer. Ça peut être très chouette. C'est accessoirement un moyen de sociabiliser. Ça peut être cool. Ouais.
Donc, et oui, quelqu'un qui soit assez sympa et qui se moque pas trop de toi.
Oui, effectivement. Alors si, non, bah, il faut accepter qu'on se moque de toi. Hein. Moi, je me fais allègrement moquer de moi, mais c'est pas grave, j'accepte. Et tu vois, c'est ma façon de souffrir pour progresser. Mais au-delà de ça, donc oui, j'ai réservé ma date. Et rien de très séduisant pour moi, en tout cas, Nintendo Direct. En revanche, tout à l'heure, j'ai vu la présentation, le teaser plutôt qu'une présentation, du jeu Pokémon qui va arriver en 2025, qui ne laisse pas trop place au doute. Hein. A priori, ça sortira sur une PlayStation Switch 2, bon, même si ce n'est pas annoncé comme tel. Donc voilà, ça me laissait imaginer ce qu'on pourrait avoir pour une Switch 2. J'ai dit quoi ? J'ai dit PlayStation... Non, j'ai dit Nintendo Switch 2. Hein. J'ai dit n'importe quoi, je crois. Non, je parle bien d'une Nintendo Switch 2.
Oui, voilà, c'est Switch 2, enfin, probablement. Mais oui, ok. Bah, écoute, non, mais je comprends. Et, ce qui me concerne, les... Alors moi, il y a deux trucs qui m'ont attiré. Il y a déjà le portage de Kingdom Come Deliverance qu'on n'attendait plus. Je croyais qu'il avait été totalement annulé, honnêtement, parce qu'il a, enfin, ça fait un bon moment hein, qu'on attendait le portage de ce jeu, donc qui est sorti sur Xbox One et PS4 et qui est pas très connu, et c'est dommage parce que Kingdom Come, en fait, c'est comment dire. C'est le meilleur simulateur de vie médiévale, je pense, à la première personne que tu puisses trouver. C'est une sorte de Skyrim, mais sans magie et sans dragon. Okay. Donc tout le monde, évidemment, va dire « bah c'est chiant ». Sauf que non, en fait, parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus réaliste. C'est ancré vraiment... Enfin, voilà, c'est beaucoup plus réaliste au niveau de l'histoire, au niveau de la difficulté aussi, au niveau de ce que tu peux faire, etc. Et donc, c'est vraiment assez immersif. Le jeu est très beau, en tout cas sur PlayStation 4, il était déjà pas mal du tout, hein, il était déjà assez beau. Et bon, c'est vrai que c'est un jeu quand même qui a l'air vraiment très difficile à porter sur Switch, hein, qui est quand même beaucoup moins puissante. Et je pensais qu'ils avaient abandonné l'idée, donc je suis très surpris de voir Kingdom Come Deliverance arriver sur Switch. Si vous aimez les simulateurs médiévaux, enfin si ce genre de truc vous botte, très honnêtement, Kingdom Come, c'est un truc injustement ignoré hein, souvent, je trouve. Et bon, l'autre truc, évidemment, qui m'a marqué, c'est Unicorn Overlord, parce qu'évidemment, ça a des vibes de Fire Emblem, de Diofield Chronicles, mais le tout à la sauce Vanillaware, c'est-à-dire avec vraiment, avec un style graphique, tu vois, très, très illustration, peinture, enfin, c'est vraiment très, très beau. Et puis, ben voilà, ça a l'air d'être un jeu, donc, alors, c'est un jeu de stratégie, ça a l'air d'être un peu temps réel comme Diofield Chronicles, qui est aussi un jeu que j'ai bien aimé, et qui m'a l'air d'être passé un peu sous les radars. C'est un jeu de stratégie tactique, hein, plus ou moins. Un petit peu comme Fire Emblem, sauf que c'est plus en... C'est un peu plus comme XCOM, en fait, que Fire Emblem, mais bon, bah, ça se passe toujours dans ce truc de fantasy médiévale, tout ça. Et donc, ouais, ça a l'air quand même bien sympa.
Excellent. Bah, écoute, je suis ravi de te voir réjoui, Guillaume, à l'arrivée de ces jeux. Merci beaucoup pour le temps passé.
Je ne sais pas si je reprendrai Kingdom Come sur Switch, pour le coup. Mais c'est sympa de le voir arriver.
D'accord.
Je l'ai déjà sur PS4.
Oui, parce que si tu l'as déjà, oui, forcément.
Oui, voilà.
Après, j'arrive à me demander s'il ne souffrira pas un petit peu de la disponibilité sur cette bonne vieille console.
Ce qu'on espère, c'est qu'il soit d'aussi bonne qualité que The Witcher 3, qui est un portage absolument remarquable.
Ouais. C'est vrai,
le meilleur possible, probablement.
Techniquement, c'est faisable. Il n'y a plus qu'à espérer que ce soit le cas. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de cet épisode de Tech Café. On aura l'immense plaisir de te retrouver dans le supplément de cette semaine et on aura peut-être un peu de regret de ne pas t'avoir à nos côtés dans le podcast. Et pour la semaine prochaine, je crois que tu prends quelques... Non, je ne dis pas de bêtises, c'est la semaine prochaine.
Si, c'est exactement la semaine prochaine, je ne serai pas dispo, effectivement, malheureusement. Mais bon, vous aurez beaucoup à dire sur l'MWC, probablement.
Donc... Probablement qu'il y aura du matos. Tu avais prévu qu'on en touche quelques mots dans l'épisode,
oui,
et puis le temps nous a manqué.
Encore,
et
voilà.
Non, si, il y a la révolution, Guillaume, il y a un écran transparent. Est-ce que tu te rends compte à quel point...
Non, mais sans déconner.
J'ai pas envie de te chauffer sur le
non,
truc.
Mais je voulais, c'est vrai que c'est de ça dont je voulais parler, parce que je trouve ça à la fois super sexy et complètement naze, et simultanément, c'est ça qui est magnifique.
Bravo, prouesse réussie. Allez, on en parlera la semaine prochaine, je pense. Merci en tout cas beaucoup pour la préparation de cet épisode, Guillaume. Profite bien de tes quelques jours de repos. En attendant, on invite nos auditeurs à réagir sur le serveur Discord, techcafé.fr/discord, en déposant des commentaires sur techcafé.fr dans les articles qui accompagnent la parution des épisodes. Et puis, vous pouvez aussi nous retrouver à titre individuel. Guillaume, est-ce qu'il y a un moyen de te joindre pendant que tu seras en vacances, quelques jours, là. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part ?
Oh bah déjà, non, on va me retrouver à discuter avec le chat.
Ah, très bien.
Oui, mais lequel ?
Avec le vrai, avec le chat de Mistral, ou avec un chat en poil et en viande. Le mystère reste entier. Merci, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux. Un peu tous, hein. Twitter, Threads, Blue Sky, Mastodon, tout ce que vous voulez. Je suis partout, Guillaume Vendée. Et puis surtout, je vous retrouve dans quelques jours dans un prochain épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous.
Ciao.